Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Dans la volonté d'entrer en profondeur, tellement elle est difficile par ailleurs à comprendre, dans la logique qui est celle de la Kabbale, de cette Kabbale dont on parle si souvent, mais dont l'accès est si difficile, nous avons déjà, dans les vivants et les dieux, consacré 4 émissions au Zohar. D'une part, pour comprendre quels en étaient les principes fondamentaux et directeurs, d'autre part, pour s'attaquer, en quelque sorte, au texte même du Zohar, au texte central tel qu'il a été écrit par Rabbi Moïse de Léon. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration à travers 2 ouvrages qui sont beaucoup plus centrés, si on peut dire, puisque l'un consiste dans le commentaire du livre de Ruth, l'autre est le Zohar consacré aux Lamentations. Et c'est précisément à ce Zohar des Lamentations que nous allons nous intéresser aujourd'hui dans la compagnie de Charles Mopsik, qui depuis des années et des années se consacre à l'étude de ces textes, à leur traduction en français, qu'il a mis à notre disposition aux éditions Verdier, et comprendre à travers ces Lamentations ce qui se joue, ce qui se réfléchit, ce qui se médite dans la plus grande profondeur de la condition de l'homme à partir du moment où il est sorti du paradis terrestre, où il est entré dans la nature telle que nous la vivons aujourd'hui, et donc quel est le principe de séparation entre l'homme et la divinité, et éventuellement quel est le principe de séparation qui s'est fait dans le monde des séphirotes, dans le monde des émanations divines, avec la place tout à fait centrale évidemment qui est donnée à la Séphira Malkout.
Il ne s'agit pas simplement de commentaires brefs sur quelques versets, mais vraiment d'une description détaillée des propos ou d'un épisode de la vie personnelle, de l'histoire de la figure féminine, de la divinité. Et bien entendu, ce qui leur accroche au livre biblique des Lamentations, Lamentations attribuées à Jérémie, c'est le fait que Jérémie commence par représenter Jérusalem, la ville de Jérusalem, assiégée et bientôt mise à sac par les armées de... Alors, pour le premier temple, c'était les armées de babyloniennes, de Nabuchodonosor, et pour le deuxième temple, évidemment, c'était les armées romaines, c'était le général Titus. Menacée donc par la destruction, Jérusalem est représentée sous une figure féminine, la figure d'une femme, d'une veuve, qui pleure, qui se lamente. Et c'est le point de départ du Zohar sur les Lamentations, comme du livre biblique des Lamentations.
Ce qui est étonnant, Charles Mopsik, lorsqu'on regarde la structure de ce livre, c'est de voir comme il y a une espèce, je dirais, de constant va-et-vient entre ce qui ressort de l'histoire et de l'histoire réelle, c'est-à-dire la destruction du temple effectivement par les Babyloniens, des considérations sur le début du livre de la Genèse, sur l'histoire d'Adam et Ève en fin de compte, comme il y a référence évidemment à Jérémie, il y a référence aussi à l'Ecclésiaste. Donc ça fait une structure extrêmement particulière, comme si effectivement tous ces événements ou tous ces récits de la Bible se faisaient écho et résonance, si on peut dire l'un à l'autre.
Effectivement, il y a au départ une idée très simple qui peut être énoncée en une formule, en une phrase. Tous les malheurs de l'humanité, et d'Israël en particulier, proviennent d'une faille. D'une faille qui s'enracine au tout début de l'aventure humaine, qu'on peut appeler la faute d'Adam, mais qui en fait remonte plus haut dans la sphère, dans le monde divin, et qui est un écart, une séparation qui intervient entre eux, de séphirotes, donc deux émanations, deux aspects, deux dimensions de la divinité, l'aspect masculin, qui porte différents noms, et l'aspect féminin, qui porte aussi différents noms. Généralement, le soir, on peut les identifier aux séphirotes Tiferet ou Yesod, c'est-à-dire beauté et fondement, et pour le masculin, et Malchut, la royauté, pour le féminin. Mais bon, ce sont des appellations, le soir en use de différentes façons et utilise différents synonymes. Et c'est cette faille, cette séparation entre la zone, la région masculine de l'être divin et la zone ou la région féminine de l'être divin, une séparation qui intervient entre ces deux pôles du monde divin, qui est à l'origine et qui est qui signe le malheur que va connaître l'humanité et l'ensemble de tous les malheurs. D'où la possibilité pour le Zohar, à partir de cette grille, de cette explication très très schématique, la possibilité d'aller et venir, de tisser une toile, un fil, entre des épisodes bibliques de la Genèse, des épisodes bibliques postérieurs, comme ce qui s'est passé à l'époque de Jérémie, la destruction du temple, d'aller et venir sans qu'il y ait de distorsion, sans qu'on soit plongé dans des mondes ou dans des aventures humaines différentes, puisque finalement les évolutions historiques et les différentes formes de l'aventure de l'histoire sainte en particulier, puisqu'il s'agit de l'histoire biblique ici, ne font que traduire un schème qui est celui de la séparation du masculin et du féminin, et bien entendu de l'aspiration, du désir, de leur retrouvaille, de leur réunification.
C'est étonnant, Shalom Hapsik, c'est que à travers cette lecture multiple, si on peut dire, c'est-à-dire à la fois sur le plan humain de l'histoire tout à fait réelle, et puis de ce qui s'est passé dans le monde de l'émanation divine en quelque sorte, on a l'impression qu'à la fois, je dirais, de l'histoire change de sens, ou plus exactement, elle prend un sens par rapport au fait qu'il y a une histoire divine, et que cette histoire divine elle-même prend du sens par rapport au fait qu'il y a une histoire humaine.
Je me demande si on ne peut pas dire qu'il n'y a, aux yeux de l'auteur du Zohar et des kabbalistes, finalement qu'une seule histoire, mais qui se déploie sur deux plans différents, mais deux plans qui ne sont pas des plans ontologiquement séparés, qu'aucun fossé ne distingue. Il n'y a pas un abîme entre justement l'histoire des hommes, des faits historiques, et l'histoire ou les évolutions les internes au monde divin. Il s'agit de la réitération d'une même, je dirais presque d'une difficulté d'être, mais qui touche la divinité, d'un malaise qui est propre au monde divin du fait même qu'il est créateur, du fait même qu'il produit à partir de lui-même un monde différent de lui, et ce malaise se traduit dans sa création de façon telle que cette traduction n'est pas une simple trahison ou transcription dans un autre langage, mais la marque, exprime la marque de la présence du monde divin dans tout ce qui est, y compris dans l'histoire.
Oui, mais c'est là, si vous voulez, qu'on a du mal à saisir parfois, c'est qu'à la fois il y a cette sorte d'identité que vous relevez entre l'histoire humaine et l'histoire divine, en fin de compte, et en même temps, il y a pourtant un principe de distinction. Ce qui se passe à l'intérieur du monde des Séphiroth, dans le monde des émanations, ce n'est quand même pas sur le même plan que ce qui se passe dans l'histoire humaine. C'est-à-dire, comment penser en même temps, et je pense que le Zohar là-dessus quand même y a beaucoup réfléchi, comment penser en même temps l'identité et la différence.
Alors, effectivement, là c'est la question sur laquelle le Zohar et les kabbalistes reviennent sans cesse. Et c'est assez délicat à démêler les chevaux de la différence et de l'identité. Il y a une relation complexe entre l'un et l'autre. La différence n'est pas exclusive de l'identité ou de la mêmeté. De même, l'identité n'exclut pas la différence. On les pense comme des binômes ou de façon binaire, mais c'est un a priori. L'identité et la différence, c'est simplement deux façons de voir, une manière, disons, globale, et éloignée de voir, si vous voulez, à une certaine distance, on voit que les choses sont différentes, quand on s'approche davantage, on voit qu'elles relèvent de la même réalité. Ça dépend de la façon de mettre la focale, d'ajuster la lentille, face aux choses qui surviennent. C'est une question de regard sur les choses, plus que de nature des choses. C'est une question de distance. Bon, c'est une métaphore spatiale, on pourrait prendre d'autres métaphores. Et qui... question, disons, d'ajustement du regard, qui fait que, tantôt, tel aspect ou tel plan divin nous paraît concerner uniquement le monde divin, ou la vérité ultime, l'absolu, la transcendance, tantôt il nous paraît concerner le monde humain et l'histoire humaine, mais en réalité, il s'agit d'un processus, d'un phénomène qui se stratifie en différents plans, mais qui ne contient pas en lui-même deux ou trois ou une série de degrés ontologiquement différents, de nature, d'ordre différent, mais dont la différence est une question de distribution et donc la façon dont on va se situer par rapport à cette distribution, à ce Dieu qui se distribue dans ses émanations, la façon dont on va appréhender cette distribution, que l'on se situe à un angle, à une extrémité ou à une autre, eh bien, va nous la faire apparaître différente, comme étant, va nous faire apparaître les différences. Ça ne veut pas dire que les différences ne sont pas de vraies différences, ça ne veut pas dire que l'identité n'est pas une vraie identité, ça veut dire simplement que l'identité et la différence sont deux modes d'apparition d'une même réalité constante qui est dynamique, qui est un flux, qui n'est pas un être statique qu'on pourrait identifier une sorte de statue immobile, mais qui est beaucoup plus un organisme vivant animé d'élan et bon, selon la métaphore utilisée par le prophète Ézéchiel sur les êtres vivants, les chayot, dans le premier chapitre, les êtres vivants ou les animaux, comme on traduit aussi, allaient et venaient, couraient littéralement et revenaient. C'est une course qui est sans cesse, une course mouvementée où il y a des allers-retours constants, si rapides, qu'il est impossible de dire qu'à un certain moment, d'assigner, si vous voulez, un point à partir duquel il y a le retour. Comme si la continuité et la discontinuité dans le mouvement divin, en fait, fusionnaient.
fille a vu, au sein du jardin d'Éden, au moment où le jugement d'en haut a été émis, 10 belles perles, lumière de tout le jardin parmi les arbres, se dévêtirent et sortirent au dehors. Tous les arbres du jardin d'Éden se mirent à crier et dire « Malheur, les hommes vigoureux ont été courbés. Les gardiens des portes du jardin d'Éden sont pris de tremblement. Ces chérubins montent et descendent et ne laissent pas de place pour que ces êtres de lumière puissent sortir lorsqu'ils se dévêtent des lumières de leurs habits. Les résidents d'en haut et d'en bas gémissent en se tournant vers eux. Les gardiens des murs d'en haut tressaillent. Toutes les puissances des hauteurs du ciel pleurent et poussent des cris. Qui a vu notre mère éclater en sanglots et hurler? Elle descend auprès des chérubins, les gardiens des portes du jardin tout tremblants. Puis notre mère remonte, accompagnée d'un chérubin. Aussitôt, la flamme du glaive tournoyant très affûtée cogne aux portes et les 10 lumières sortent. Les êtres d'en haut et d'en bas poussent des cris. Malheur au monde, malheur à la génération.
Pour bien comprendre ce qui nous est dit dans ce Zohar des Lamentations à Charles Lopsic, je voudrais remonter un petit peu en arrière. Je vous disais que ces lamentations, bon, historiquement, c'est la destruction du premier temple, la destruction du second temple, etc., c'est-à-dire les malheurs de l'histoire humaine, en fin de compte, commençant avec Adam et Ève. Et puis, vous disiez, il y a une faille dans la création. Et le fait même qu'il y ait création suppose que d'une certaine façon aussi, il y ait faille en Dieu, c'est-à-dire que Dieu s'est retiré en lui pour qu'il puisse y avoir création. Ça, on suit bien. Mais la question que l'on se pose, c'est de se dire que signifie cette séparation du masculin et du féminin dont vous avez parlé dans le monde des émanations, dans le monde des Sephiroth, le fait que, bon, c'est Yesod ou Tiferet, comme vous le disiez, le fondement ou la beauté d'un côté, et puis Malkout de l'autre, la royauté, qui sont séparés. Comment peut se produire précisément cette faille à l'intérieur du monde qui est le monde de l'émanation divine, de la manifestation divine?
Bon, alors c'est la question de l'unité divine. Comment postuler ou poser ou proclamer, tout simplement témoigner de l'unité divine, comment rester monothéiste, alors qu'il existe un Dieu et un monde? C'est une question très difficile, qui peut paraître quelque part... quand on apprend, si on appréhende les choses d'un point de vue théologique, presque une question hérétique, puisqu'elle met en jeu, c'est-à-dire elle pose la question de l'unicité du Créateur. Effectivement, c'est une question qui a préoccupé très fondamentalement les kabbalistes. Déjà, dans les textes anciens, dans les textes antérieurs à ceux de la Kabbale, on pourrait même remonter à la Bible et à des écrits 5e, 6e siècle, et même encore plus avant, avant l'ère chrétienne, où on nous parle d'une espèce de couple entre constitué par Dieu, le Créateur, et la sagesse, et sa sagesse. Ce couple primitif, primordial, pourrait dire, enfin primordial, ce couple qui est là, qui est présent, et les textes le disent clairement, avant même la création, et d'où la création va surgir, Dieu a créé le monde avec sagesse, avec la sagesse, avec dame sagesse, en faisant de dame sagesse, de sa sagesse, son instrument de création. Déjà, désigne l'existence, la préexistence de ce que j'ai appelé, ou que les kabbalistes appellent une faille, une séparation, mais qui n'est pas au départ vécue ou pensée, ou qui n'est pas au départ une séparation à proprement dit, qui est simplement une dualité, la présence d'une dualité, d'une dyade qui constitue l'unité divine. Et ce couple est au départ parfaitement uni. Mais survient la création, et dans la création, la faille, la séparation qui se marque au niveau du récit biblique, de façon patente par la faute d'Adam et d'Ève, la mendication du fruit, que les kabbalistes interprètent comme le fait que là, la faute consiste précisément en ce que le fruit a été séparé de l'arbre, c'est-à-dire où la séphira tiferet a été séparée de la séphira malchut, donc le pôle masculin du pôle féminin. Cette séparation, bon, elle a donné lieu à, en particulier, à ce qu'on a appelé le polythéisme ou l'idolâtrie. Les kabbalistes disent que l'origine des formes de croyances de type polythéiste provient de cette faute également, puisque à partir d'elle, à cause d'elle, on s'adresse tantôt, on peut s'adresser tantôt au pôle masculin ou tantôt au pôle féminin comme des éléments séparés. C'est quelque part cette façon de prier ou de s'adresser ou d'adorer, par exemple, ce que le prophète Jérémie appelle la reine du ciel, et dont il reproche aux Hébreux qui s'étaient installés en Égypte de lui rendre un culte. Cette reine du ciel, c'est la figure féminine de la divinité, la Shekhinah. Mais ce n'est pas la faute des Hébreux à ce moment-là, c'est pas qu'ils lui ont rendu un culte, c'est qu'ils lui ont rendu un culte séparé du culte qui doit s'adresser en fait à leur unité, à l'unité du pôle féminin et du pôle masculin.
Lorsque nous péchions contre notre Père et qu'il levait le fouet pour nous flageller, notre mère se dressait devant nous et recevait les coups du roi afin de nous épargner, comme il est marqué. Mais lui, c'est à cause de nos forfaits qu'il était transpercé, à cause de nos fautes qu'il était écrasé, et par sa meurtrissure nous avons été guéris. Maintenant nous n'avons plus de mère. Malheur à nous, malheur à vous ensuite. C'est à nous qu'il appartient de pleurer, à nous qu'il revient de dire l'oraison funèbre, à nous d'expliquer ses paroles amères et de faire connaître à ceux qui savent pleurer les mots de l'oraison. Nous nous approchons chaque jour du lit de notre mère et nous ne lui trouvons pas. Nous demandons pardon.
Cette faille, elle est en quelque sorte une donnée avec laquelle les hommes ont affaire. Ils ont à faire face à ce problème, qui est un problème pour eux, qui est devenu un problème pour eux, de rassembler, de recoller les morceaux. Pour recoller les morceaux, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, parce que l'on est naturellement porté à tantôt se tourner vers une figure, la figure masculine, ou tantôt se tourner vers la figure féminine, mais c'est justement là que réside l'erreur, et ce qui freine, ce qui retarde la réparation. Parce que cette recherche de fausse clarification, de fausse identité, en fait, dans le regard ou la croyance, dans la nature de la croyance, n'est qu'une façon de reconduire la séparation, de la prolonger. Et dans leurs textes, dans leur interprétation des prières, etc., les kabbalistes se sont efforcés de forger un langage, de forger des concepts, des images, toute une série de formules également, de formules de prière, de bénédiction, etc., qui visent à rassembler, recoller, ressouder ces deux pôles que l'on croit séparés, et qui sont quelque part séparés, qui sont séparés parce que les hommes continuent à les séparer, qui sont séparés dans l'esprit des hommes, ce qui ne veut pas dire que cette séparation est fausse ou n'est qu'une illusion. Elle est réelle parce qu'elle est réelle pour les hommes. Tant qu'elle est réelle pour les hommes, elle a une réalité. Et c'est cette réalité qui doit être surmontée. C'est les hommes et leurs croyances qui donnent à la réalité sa configuration. Et c'est pour, dans le but, disons, d'influer, de modifier cette configuration dans l'ordre de la croyance, que les kabbalistes ont par exemple repensé la formule de la prière bien connue qui proclame l'unité de Dieu, Dieu est un, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, comme une formule qui part en réalité des retrouvailles entre entre l'homme et la femme d'en haut, entre le roi et la reine.
La reine éclate en sanglots. Elle se met à crier. Mon époux, lumière de mes yeux, me voilà qui m'éteins. Ne te souviens-tu pas quand tu étendais ta main gauche et la glissais sous ma tête? Moi, je me délectais de l'accroissement de la paix. Ta main droite m'enlaçait fraternellement et nous nous abreuvions de baisers. Tu me faisais le serment de ne jamais délaisser mon amour pour l'éternité. Et tu me jurais, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite soit oubliée.
On peut donner d'autres exemples de ces tentatives. Par exemple, une formule récitée toutes les semaines à l'entrée du sabbat, où il est dit « Dieu a sanctifié le septième jour ». Or, le mot « sanctifié » est pris ici dans son sens, dans un sens très particulier, où il signifie « consacré en mariage ». Et c'est ce qui est désigné, c'est finalement pour les kabbalistes, les retrouvailles, le remariage, si l'on peut dire, entre le roi et la reine. Le livre des Lamentations, le Zohar sur le livre des Lamentations, raconte en termes assez littéraires, poétiques, un épisode douloureux où la séparation entre le pôle masculin et le pôle féminin a atteint, on pourrait dire, un point culminant, qui est l'événement de la destruction du temple, le fait qu'à ce moment-là, Dieu s'est retiré, le pôle masculin de la divinité, s'est retiré dans les hauteurs, et le pôle féminin, la Shekhina, la reine, la présence divine, est restée seule, comme une veuve, pleurant, se lamentant, d'où le mot lamentation d'ailleurs, de la disparition, de l'éloignement de son époux. Et elle se rappelle dans sa plainte, dans sa complainte, l'époque d'avant la destruction où son époux divin venait la visiter dans le temple de Jérusalem, où elle se joignait à lui, où elle s'unissait à lui dans le Saint des Saints qui est identifié explicitement à une chambre nuptiale. Et c'est un élément intéressant parce que on retrouve cette identification entre le Saint des Saints et la chambre nuptiale. On la retrouve, c'est une identification assez rare, que l'on trouve pour la première fois dans un texte gnostique, l'évangile de Philippe, qui parle explicitement du Saint des Saints comme d'une chambre nuptiale. Et le texte du Zohar, de façon très explicite, évoque cette union dans le Saint des Saints, et cette union qui est clairement désignée comme une union charnel, comme une union d'un corps à corps entre le roi qui venait résider sur les saints de la présence divine dans le temple, dans la chambre nuptiale.
Le
la reine pousse des cris en pleurant et elle dit « Mon lit, lieu de mon sanctuaire, lieu des pierres précieuses du rideau et du propitiatoire, sur lequel reposaient 60 000 myriades de joyaux rares, agencés par rangées en regard les uns des autres, rangées de grenades réparties sur toi, aux quatre points cardinaux, se tenant grâce à toi. Sur toi, le Seigneur du monde, mon époux, venait à ma rencontre, et il se couchait entre mes bras. Tout ce que je lui demandais, tous mes désirs, il les accomplissait immédiatement, lorsqu'il se rendait auprès de moi, délaissant sa demeure, et il s'ébattait entre mes seins. Mon lit, ne te souviens-tu pas quand j'allais vers toi joyeusement, le cœur en liesse, alors que les jeunes adolescents sortaient à ma rencontre en battant gaiement des ailes pour m'accueillir? Poussière qui te recouvre, soulève-toi de ce lieu et vois comment l'armoire de la Torah qui était ici a été oubliée. La nourriture du monde entier en surgissait, ainsi que la lumière et des bénédictions pour tous.
Il y a d'autres invocations également dans le texte qui rappellent l'époque où la Shekhina, présente avec son époux dans le Saint des Saints, faisait fonction de bouclier. Le Zohar raconte qu'elle se dressait devant son fils, devant Israël, pour recevoir les coups de fouet, c'est-à-dire les châtiments que lui infligeait Dieu pour les fautes d'Israël. Autrement dit, le texte, et c'est une allusion qui est unique dans le Zohar, et rarissime dans la plupart des textes juifs, où c'est Dieu lui-même, sous sa forme féminine, sous la forme de la Shekhina, de la reine, qui subit, qui souffre, qui prend sur elle les fautes d'Israël et qui est châtiée à sa place.
On est très frappé de voir, à travers les lamentations de la mère, de cette mère éplorée, en fin de compte, comme effectivement il y a introduit le thème que vous venez de soulever, Charles Wapsik, celui de la souffrance divine, et en même temps qui est, je pense, intrinsèquement lié, l'idée que le Messie à venir sera lui-même un Messie souffrant. Et là, on a l'impression de quelque chose quand même de très, très singulier.
Un Messie souffrant et un Messie maternel, féminin, maternel. Et c'est effectivement tout à fait singulier. Le Zohar n'insiste pas beaucoup sur la figure du Messie dans les Lamentations, mais il est évident que on a affaire ici à un des très très rares textes qui a subsisté dans l'histoire de la littérature hébraïque, enfin, bon, araméenne, en tout cas, juive, texte classique, texte religieux sacré, ou considéré comme sacré, canonique, enfin, en tout cas, révéré, où le Messie souffrant est à la fois considéré comme une figure divine féminine, et dont les souffrances ne sont pas seulement ses souffrances à lui, enfin, je veux dire, dont les souffrances sont assumées à la place, en lieu et place du peuple, de l'ensemble donc qui ont commis les fautes. Une sorte de déplacement de la souffrance du peuple, des hommes, vers la divinité qui les assume, qui prend ses fautes volontairement sur lui pour en préserver l'humanité, pour soulager l'humanité de ses souffrances. Et là, effectivement, on a affaire à une problématique qui frôle, évidemment, celle qu'on retrouve dans le christianisme.
Mais vous dites qu'on est proche du christianisme, mais en fait, sur le plan psychique, est-ce qu'on ne serait pas plutôt proche de ce qui a été une hétérodoxie chrétienne, c'est-à-dire le thème, précisément, du Jésus féminin?
Alors, effectivement, hétérodoxie chrétienne, je ne sais pas si le Jésus féminin a toujours été une hétérodoxie, enfin, considéré comme une hétérodoxie, ou comme un... Parce que on a des textes médiévaux où Jésus est décrit ou est appréhendé en termes féminins qui ne sont pas des textes hétérodoxes ou des textes hérétiques. Effectivement, on est proche aussi de cette littérature et de cette tendance, bon, qui était essentiellement en vogue, enfin, dans les couvents, chez les sœurs. Mais dans le texte du Zohar, c'est lié à une problématique complexe, ramifiée, structurée. Je veux dire, ce n'est pas un élément rapporté qui surviendrait soudain comme ça, comme une pièce venue d'ailleurs. Ça fait partie de la logique du développement du Zohar. Et donc, on ne peut pas parler d'un mimétisme ou d'une tentative de récupération d'un élément.
Non, ce que je veux dire, c'est que ce sont éventuellement des éléments structurels comparables.
Ah oui, tout à fait.
Mais pas, tout à fait. Je ne parle pas d'influence.
Ça, je suis tout à fait. C'est évident qu'on a là structurellement des éléments singuliers, c'est-à-dire quand même qui est singulier à la fois dans le christianisme et dans le judaïsme, et parfaitement et comparable, et qui offre des traits de similarité, de similitude indéniables.